Bien, d'abord, je commence par m'excuser pour la semaine dernière. J'ai été empêché par une impossibilité de m'exprimer. Mais je sais qu'on n'a pas perdu aux chances. J'en dirai pas plus. Hein? Je sais, il le sait. Alors, écoutez, je voudrais prendre un sujet qui est quand même commun. Non, ça va. Pour le moment, ça va. Un sujet qui est commun aux différents récits qui se déroulent depuis déjà un certain nombre de chapitres dans le livre de l'Exode. Et c'est le problème des 10 plaies d'Égypte, qui a déjà, bien entendu, été très entamé dans la paracha de la semaine dernière. Je voudrais poser la question de la manière que je vais vous dire tout de suite. Et vous me direz si c'est ce que vous avez déjà étudié. C'est la question de savoir comment comprendre la finalité des 10 plaies d'Égypte. Avec comme question annexe, mais identifiée, pourquoi en a-t-il fallu 10? Et quelle est la logique de la progression qu'il y aurait, si progression il y a, dans ces 10 événements, jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la réalisation de ce qui était cherché. Mais en fait, la question est, qu'est-ce qui était cherché? Quelle en était la finalité? Est-ce que vous avez déjà étudié cet aspect de la question? Okay. Oui? Non, la semaine dernière, vous avez déjà étudié?
Non.
Oh. Ça veut rien. Et vous avez dû l'étudier dans une vie antérieure, en tout cas, certainement, mais c'est un sujet classique. Alors, je vous rappelle brièvement les deux thèses principales. D'abord, celle du pshat du récit. Vous avez la paracha de Bo sous les yeux, le début de la paracha de Bo. Le récit tel qu'il nous est donné à première lecture, semble-t-il, il s'agit essentiellement d'une intervention de Dieu pour obtenir la libération, la délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien. C'est la première thèse très, très claire. Et alors, il faudra nous demander, déjà, pourquoi a-t-il fallu 10 plaies? Dans le sens de la formulation de la question et la plupart du temps de la manière suivante, Dieu est tout-puissant, et s'il doit intervenir, et pourquoi doit-il intervenir, ça aussi, il faudra l'étudier, de telle sorte d'obtenir un certain résultat, pourquoi une plaie n'aurait-elle pas suffi? Pourquoi a-t-il fallu, si c'est cela la finalité, de délivrer Israël de l'esclavage égyptien? Il est évident que la lecture du contexte de la 10e plaie, celle au moment de laquelle le pharaon s'est affolé, il commençait déjà un peu à s'affoler un peu avant, d'ailleurs on verra tout à l'heure, a été pris d'affolement. Et pourquoi n'a-t-il pas été pris d'affolement avant? Et le peuple égyptien lui-même intervient, ce qui est déjà raconté dans certains des paragraphes précédents, l'opinion publique égyptienne, si on peut dire, de ce temps-là, intervient auprès du pharaon, parce qu'il y a un pressentiment que si les Hébreux ne quittent pas l'Égypte, l'Égypte est perdue. Et que signifie tout cela? Enfin, surtout, pour résumer la question elle-même, on s'aperçoit que il aurait suffi, peut-être, on ne refait jamais l'histoire à l'envers, bien entendu, a posteriori, mais c'est pour aménager la question. Il aurait suffi donc d'emblée de l'appeler des premiers-nés, formulé comme il est formulé dans sa clause, « Laisse sortir mon peuple, qui est mon premier-né ?» ou bien c'est ton premier-né qui sera frappé, et qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, on voit bien que lorsque les premiers-nés de l'Égypte, mais ça commence par le premier-né du Pharaon, et tous ces détails dans le texte sont importants. Pourquoi faut-il savoir que le premier-né de l'Égypte, les premiers-nés de l'Égypte, mais le premier-né de l'Égypte par excellence, doit être frappé? C'est à ce moment-là, le résultat a été obtenu. Alors pourquoi pas d'emblée une plaie? Est-ce que la question commence à être claire? Ça, c'est dans tous les cas dans la première thèse d'explication. La deuxième thèse d'explication, qui est aussi très classique et qui n'exclut pas la première, et la première n'exclut pas la deuxième d'ailleurs, c'est de punir les Égyptiens de l'esclavage dont les Hébreux ont été victimes. C'est différent. La première thèse, c'est de faire que Israël soit délivré de l'esclavage, mais corollairement de punir les Égyptiens du fait qu'il y a eu esclavage. Je commencerai peut-être par la deuxième. Mais ceci pour dire que les deux sont insuffisantes d'après notre question globale. C'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, il aurait suffi d'une plaie massive Et le résultat aurait été obtenu, et l'un et l'autre. Alors donc, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, enfin de beaucoup plus caché, qui ne se dévoile que progressivement et qu'il faut arriver à déceler. Voilà, j'espère que la question est suffisamment clairement posée. En général, les grands commentateurs, et je citerai essentiellement Maïmonide, à ce sujet, formulent une objection fondamentale sur l'une et l'autre thèse, et qui est l'objection suivante. Cet exil et l'esclavage corollaire étaient annoncés par Dieu à Abraham. Et il y a donc un problème théologique très difficile. Si Dieu est non seulement tout-puissant, mais omniscient, à partir du moment où il formule longtemps à l'avance, avant que l'histoire d'Israël ne commence, au niveau d'Abraham, une telle indication, je ne veux pas dire prédiction, prophétie, nous verrons que ce n'est pas si simple, mais une telle indication qu'il y aura 400 ans d'exil et qu'il y aura persécution, et plus que persécution, il mourir en hébreu, c'est plus que simplement être persécuté. Quand on reverra le verset tout à l'heure, vous verrez dans l'annonce de l'éventualité de l'exil d'Égypte, de l'exil, et ça arrivera en Égypte, à Abraham, il y a 4 niveaux de l'oppression. Il y a le fait de ne pas être chez soi et d'être ailleurs dans un pays étranger. Je dirai le verset tout à l'heure, vous reconnaîtrez tout ça. D'être ensuite soumis à la souveraineté de la volonté d'autrui. Et enfin d'être persécuté et d'être privé complètement de liberté et d'autonomie, une espèce d'anesthésie de l'autonomie, de l'identité des Hébreux. Quelque chose, et je ne peux pas ne pas indiquer cette analogie, quelque chose d'analogue à ce qui est arrivé avant la Shoah, ou semble-t-il, quelque chose d'inéluctable, et on le lit a posteriori, mais on l'a suivi, ceux de la génération qui était contemporaine, on l'a suivi pas à pas, quelque chose de, semble-t-il, inéluctable, bien que lisible, prévisible, bien sûr, comme on dit en hébreu, haha mahare mahase, une fois que ça s'est passé, a posteriori, c'est facile d'être haha, mais de faire des diagnostics, mais malgré tout, c'était tellement massif qu'il y avait quelque chose de cet ordre. Une sorte de caractère inéluctable d'un processus aberrant, mais qui s'est quand même passé. Alors s'il en est ainsi, si c'est annoncé à l'avance, et qu'est-ce que signifie? Et qu'est-ce que cela signifie? Tout cela est plein de mystères. Pourquoi les Égyptiens ont été punis? Est-ce que cette annonce de la part de Dieu à Abraham, que cela se passera, et pas seulement que ça se passerait, eh bien, est-ce que ça ne dédouane pas, déculpabilise pas à l'avance les Égyptiens? Pourquoi Dieu punirait-il un comportement obligé? Et en quoi il est obligé? Mais il est impliqué par l'omniscience de Dieu lui-même. Vous voyez que les choses ne sont pas simples. Est-ce que c'est bien clair? Alors je voudrais tout de suite aborder ce dernier point. Et je vais essayer de le faire de la manière suivante, en vous résumant un peu l'enseignement de Maïmonide à ce sujet, et vous verrez que ça nous laisse quand même plein d'interrogations. Cet enseignement se trouve plusieurs fois dans son œuvre, mais en particulier dans un livre qui est très important, mais tout petit, c'est les Shmona Prakim du Rambam. C'est un livre d'introduction au commentaire des Pirkei Avot, et qui est un classique de l'enseignement de Maïmonide, les 8 chapitres. Il n'y a pas très longtemps, nous avons eu une excellente communication de Thierry Alcolombré sur une comparaison entre les conceptions de la psychologie et de la morale d'après les 8 chapitres dans l'enseignement de Maïmonide et les théories d'Aristote, en particulier dans l'éthique à Nicomaque, pour vous montrer que ce sont des problèmes de haute culture universelle. Eh bien, dans les Shmona Prakim, le Rambam pose la question directement ainsi. N'y a-t-il pas, je formule dans notre langage contemporain, n'y a-t-il pas une sorte d'injustice, d'arbitraire de punir les Égyptiens et le Pharaon à leur tête, alors que Dieu lui-même avait annoncé à Abraham, et je vous répète le verset, « Yadoa benar ki ger yie zaracha beret lolaer » Savoir, tu sauras. Donc c'est une... Évacuer les mots de prédiction, prévision, prophétie, c'est une indication claire. Vous verrez pourquoi je emploie les mots de prédiction, prédication, prophétie, on verra ça tout à l'heure. « Yadoa benar, savoir, tu sauras. » C'est une réponse... Ah, je ne dirais pas un doute, mais à une perplexité d'Abraham. Lorsque Dieu, ce sont les versets du contexte précédent, de nouveau réaffirme, plus que la promesse, la certitude que c'est la descendance d'Abraham qui doit hériter du pays des Hébreux. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je formule ainsi. J'ai une petite parenthèse là. Il ne faut pas croire que le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël commence avec les promesses, entre guillemets, de Dieu au patriarche que cette terre, il y aurait là un arbitraire qu'aucune culture n'arrive à maîtriser ou à accepter. Cette argumentation du peuple juif, cette terre nous appartient parce que Dieu l'a promise au patriarche. Imaginez que ça entre dans la tête de personne dans le temps contemporain, sinon ceux qui sont déjà convaincus parce qu'ils sont hébreux et qu'ils savent que c'est leur patrie. Vous voyez que c'est différent. Vas-y, c'est clair. En réalité, il s'agit du pays des Hébreux, qui est le pays des Hébreux bien avant le temps des patriarches. J'aimerais bien que ceux pour qui ce n'est pas familier m'interrogent là-dessus dès que vous en aurez la nécessité. Selon le récit biblique, ce pays qu'on va appeler le pays de Canaan, parce qu'il était en train d'être conquis par les Cananéens au temps des patriarches, est appelé dans la Bible le pays des Hébreux. Mais on n'y prend pas garde parce qu'on croit que l'identité hébraïque, ça commence avec les patriarches. Alors que l'identité hébraïque, ça commence avec un des ancêtres d'Abraham qui s'appelait Hébreu. Et c'est pourquoi Abraham est appelé Abraham à Ivri, Abraham l'Hébreu. Les Hébreux étaient en diaspora dans la civilisation du temps, la civilisation de Babel. Alors, si vous reliez l'identité du peuple des Hébreux et l'intitulé de cette terre qui s'appelle la terre des Hébreux, j'attends que vous m'interrogez et que vous me demandiez où c'est écrit, okay, alors on se rend compte qu'on ne comprend pas tout de suite d'emblée pourquoi Dieu, à six différentes reprises, doit promettre cette terre de façon arbitraire, de façon... qu'est-ce que ça veut dire un caprice de Dieu si on admet l'autorité du Tout-Puissant, de Dieu en tant que Tout-Puissant? Pourquoi faut-il promettre aux Hébreux leur terre alors que c'est leur terre? Vous comprenez la difficulté du problème? Est-ce que vous devinez que c'est le problème que nous vivons aujourd'hui? Je me rappelle qu'aujourd'hui nous vivons depuis l'apparition du sionisme, depuis toujours, je veux dire, enfin, officiellement pour la politique mondiale depuis une centaine d'années. Je me rappelle d'une phrase d'Edmond Flegg qui avait l'habitude de dire avec humour, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui connaissent Edmond Flegg se rappellent de l'humour d'Edmond Flegg. Eh bien, il disait, Dieu n'a pas promis leur terre aux goïms, il leur a donné. Et à nous, il nous l'a promis, il ne l'a pas donné.
Dans le Coran,
le mot promettre
n'existe
pas.
Il a donné, il a juré.
Exactement.
Il n'a pas promis. Il a donné.
La terre de la promesse, la terre promise, c'est du Coran chrétien. Récupéré par les Haredim, mais enfin, ça vous est promis, attendez de le mériter. Alors que la réalité du texte biblique direct, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment tout à fait autre chose. Et je réponds à ce point de la question. C'est la terre des Hébreux. Ce que le chidouche, les promesses de Dieu au patriarche, c'est que la terre des Hébreux appartiendra à Israël. Ce n'est pas tous les Hébreux qui ont droit à cette terre, à partir du retour d'Abraham sur cette terre. C'est seule la descendance d'Abraham qui deviendra Israël. La promesse est donnée à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob. Pourquoi? Parce que de l'identité hébraïque retrouvée dans le retour d'exil d'Abraham, sont apparues différentes lignées qui se sont séparées d'Israël. Et seul Israël est héritier de cette promesse que la terre des Hébreux appartient à Israël. Vous avez compris le changement de problème, hein? C'est pas que Dieu promet sa terre à Israël, Dieu promet. Dieu confirme que les Hébreux, c'est Israël. Et tous les descendants des Araméens, les Hébreux de l'exil, revenus à travers la famille d'Abraham sur le pays de Canaan, appelé pays de Canaan, parce qu'en ce temps-là, il était conquis par le Cananéen, n'ont pas évidemment le droit à la terre des Hébreux, puisqu'ils ne sont plus Hébreux. De la lignée de Lot apparaissent Amon et Moab. De la lignée d'Ishmaël apparaît Ishmaël. De la lignée d'Esav apparaît Édom. Ce n'est plus des Hébreux. Ce sont à l'origine, si vous voulez, avant leur propre histoire, dans leur préhistoire, ils étaient impliqués dans la racine, dans l'identité araméenne que la famille d'Abraham a ramenée d'Ur-Kasdim. Et qu'est-ce que c'est un araméen? C'est un hébreu d'Ur-Kasdim, un hébreu de Babel, de la manière qu'un juif, c'était un hébreu de Rome. Prenez ce parallèle. Araméen, hébreu, juif, israélien. C'est un parallèle strict. Et Abraham revient de Babel comme araméen, de la même manière que nous sommes revenus de Rome comme juifs, mais pour devenir hébreux. Or, seul de toutes les lignées potentielles d'Abraham, de la famille d'Abraham, je dis la famille d'Abraham parce qu'il y avait aussi Lot, qui est le fils de Nahor, seul Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, est l'hébreu authentique, et à ce moment-là, il s'appelle Israël. Oui, c'est un tout autre récit. Est-ce que j'ai fait ? Donc, referme la question. La seule question, c'est pourquoi Dieu doit confirmer à Israël la terre des Hébreux ? La question serait vraiment une question s'il s'agissait de confirmer aux Hébreux la terre des Hébreux. Est-ce que c'est clair ? Vous avez bien compris la différence. Alors, je reviens au sujet. Lorsque donc Dieu réitère à Abraham cette affirmation que cette terre dite la terre de Canaan, parce qu'elle était en train d'être conquise par les Cananéens à ce temps-là, le verset c'est « Ver Kenaani az baret » et le Cananéen était alors dans le pays, relisez Rashi, qui cite le Midrash, en train de conquérir le pays. Et donc je reviens au sujet. Là, à ce moment-là, Abraham dit « Bame eda ki irachem » en quoi saurais-je que j'en mériterai ? C'est le même contexte. Okay ? Où va apparaître le verset que j'ai commencé à citer tout à l'heure, que je vais reprendre. En quoi saurais-je ? Je demande une confirmation. Est-ce que c'est un doute ? Alors, ce serait invraisemblable que le premier des croyants doute dès qu'il entend Dieu parler. Ce serait un récit kafkaïen si on le voit comme ça. Abraham, c'est le premier des croyants. Je parle français, alors je dis le premier des croyants, comme disent les théologiens en français. En hébreu, c'est le premier des confiants. La foi, ça veut dire il fait confiance. La vertu de la foi, c'est de croire. C'est de faire confiance parce qu'on est sûr. Est-ce que je répète ça ? La vertu de la foi, c'est pas de croire. Il vaut mieux être sûr. C'est de faire confiance parce qu'on est sûr. Est-ce que c'est clair ? Il n'y a que les croix qui croient. En tout cas, pour le niveau. Pour revenir au sujet, ça me revient en latin, je crois, puisque c'est absurde. Ça veut dire d'ailleurs en réalité, je crois bien que ce soit absurde. Ne croyez pas que les latins c'était des grammaires sauvages. En tout cas, pour revenir au.
Emouna, liot amin.
Liot amin, c'est une nuance, c'est être digne de foi.
C'est donc il y a ce que Dieu.
Comme Néman. Et pourquoi ? Nous avons des raisons d'avoir confiance. Mais ces raisons-là, sont des convictions de certitude. C'est pas la croyance, ça veut dire je crois peut-être. Méfiez-vous du sens des mots. Jamais Amen n'a voulu dire je crois en français. Il faut le comprendre en hébreu. Amen en hébreu, ça veut dire j'adhère, j'ai confiance. Petite parenthèse, puisque j'ai posé la question. Okay. La vertu de la foi n'est pas d'ordre intellectuel. C'est une vertu de l'ordre moral. C'est un consentement à adhérer par certitude en absence de la preuve. Mais le comportement de certitude est le même que lorsqu'il y a présence de la preuve. Alors vous avez deux substantifs qui viennent de la même racine. Emouna, j'adhère en absence de la preuve. Emet, j'adhère en présence de l'évidence de la preuve. Emet, c'est vrai. Emouna, c'est un objet de foi. Mais c'est le même contenu. Je veux dire le verset des psaumes qui éclaire ce sujet. Et à lui, continuez, va boquer. Le jour où il fait jour, où il fait clair, où c'est clair, alors je parle de chesed. Il y a une évidence du chesed. Pour dire ta fidélité de grâce, pour dire ton chesed, vous voyez que c'est intraduisible, que vous entendez en hébreu, pour dire. À quel point nous te devons le don que tu nous as donné, mais on le voit, il fait jour, il fait clair. Au matin. Et le fait que tu es digne de foi, la nuit, l'explication est très simple. Quand dans la nuit, je sais qu'il y a un soleil, et pourtant je ne le vois pas. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu pendant le jour. Donc c'est sûr que je sais qu'il y a un soleil, mais je ne le vois pas. Ça, c'est Emouna. Mais le jour, ce n'est pas Emouna, je vois, c'est aimé. Vous avez vu la différence ? Il y a une halakha que je vais vous rappeler. Tout le monde suit ? Oui. Au fond, nous sommes en train d'employer le français pour comprendre pourquoi il ne faut pas comprendre en français. Je ne sais pas si c'est clair. Et le français est une très belle langue, mais c'est une langue autre. Okay. Et alors, je vais citer une halakha. Tant que le temple existait, que la Shekhinah a été dévoilée, et nous ne sommes plus en ce temps-là, on ne sait plus diagnostiquer. Alors, chaque fois qu'on disait une bracha, le peuple ne répondait pas « Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen »,
et disait « Baruch Shem Kirod Malchuto Le'olam Ba'ed ». Depuis que le temple est détruit, que la Shekhina est occultée, à la bracha on dit « Amen ». J'adhère et je sais pourquoi, bien que je vois. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Je vous rappelle quelque chose que j'ai expliqué une fois il y a assez longtemps. Je ne sais pas si vous en souvenez, ceux qui étaient là déjà en ce temps-là. Vous savez que c'est interdit de regarder le Kohen quand il fait la vaisselle Kohen. Vous savez cela. La raison qui est donnée, elle est tirée de sources très très anciennes qui sont formulées comme c'était formulé au temps du dévoilement de la Shekhinah. Parce qu'entre les droits du Kohen, vous savez, ce geste du Kohen, ne croyez pas que c'est des symboles de folklore. Hein. Entre les doigts du Kohen, passait la lumière de la Shekhinah. Et cette lumière était tellement forte qu'elle aveuglait ceux qui la regardaient, sans avoir le mérite, la capacité de pouvoir la supporter. C'est clair ce que j'ai dit là ? Chose impossible à diagnostiquer aujourd'hui. Hein. Quelqu'un qui parlerait de ça aujourd'hui, on dirait, bon, c'est mystique. Donc, il est fou. Il ne sait pas de quoi il parle. Hein. C'est clair. Et c'est encore la même formule que moi j'ai appris au Talmud Torah et que j'ai commencé dans le Beit HaMidrash, dans les Yeshivot. Parce qu'on risque d'être aveuglé si on voit le Kohen faire la bracha. Oui, et c'était vrai à l'origine. Et je continue. Essayez de prendre les choses au sérieux. Okay. Alors le sens qui est donné aujourd'hui, depuis très longtemps, depuis des siècles, c'est ce qui est interdit, c'est de croire que c'est le Kohen qui bénit. Parce que le Kohen se donne à dire « Yevarechecha Hashem v'yishmerecha » que Dieu te bénisse et protège cette bénédiction. Voir le Kohen pendant qu'il bénit, ça induirait cette erreur païenne de croire que c'est le Kohen qui bénit. Il ne faut jamais demander à un rabbin « Bénis-moi hein? ». Il faut lui demander « Demande pour moi la bénédiction de Dieu ». Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même religion. Hein? Est-ce que c'est clair la différence hein? Et alors, comme on parle français, alors on dit « Est-ce que tu n'as pas une bénédiction pour moi ?» est-ce que vous voyez à quel point c'est différent hein? Alors, je vais raconter une anecdote. Vous avez entendu parler de son nom, Richard. Et ce n'est pas une calomnie, pourtant. Un grand idéologue sioniste, très connu, comme il s'appelait. Non, c'est pas Rabban, c'est non.
Max Nordau,
café. Max Nordau, dont vous vous rappelez l'histoire. Max Nordau, qui a son nom dans toutes les rues israéliennes, dans toutes les villes israéliennes. Max Nordau, enfant, était pieux, et il connaissait ça. Alors, un jour dans la synagogue, il s'est dit, et vous savez que les pères de famille mettent le talit sur leurs enfants et surtout ne regardent pas, hein, on les empêche, comme ça avec le talit. Il s'est dit, je vais soulever le talit, je vais aller voir et je vais voir si c'est vrai que je vais devenir aveugle. Et alors, il arrive à soulever le talit, il n'est pas devenu aveugle et il a perdu la foi. C'est un peu schématique, mais beaucoup de gens ont eu cette expérience-là. Ils ont essayé, ils ont eu le courage de mettre à l'épreuve des stupidités apprises au Talmud Torah et ils ont perdu la foi. Je ne sais pas si c'était des crises de foi, ça s'appelle. Et alors, Maxa Nordau, c'est ça que je cherchais, sa femme, Maxa Nordau, a raconté dans ses propres mémoires à elle que Max Nordau, à la fin de sa vie, est devenu aveugle. Mais je ne crois pas qu'il y ait un rapport. Ça doit être une coïncidence. En fait, quoi qu'il en soit, Max Nordau, c'était quelqu'un. Je crois qu'il est exemplaire dans cette histoire. Pourquoi je vous ai cité ça ? C'est pour faire toucher du doigt cela. La formulation doit être orale. Si on cite la formulation écrite, qui est valable pour une certaine époque, qui avait des conditionnements, qui avait des netunim, comment on dit netunim, des conditions différentes, alors on dit des énormités. Vous savez, c'est vrai dans le langage de la foi, dans le langage de la piété, c'est vrai que si on regarde le Kohen bénir, on est aveuglé. C'est une fois aveugle. Mais la formule vient d'un autre temps. Alors c'est pourquoi je vous parlais de cette lumière qui traversait les doigts du Kohen. La Shrina était derrière le Kohen qui bénissait, qui appelait la lumière de la Shrina. Yaer, Asher, Panav, Elecha, Elechoneka. C'est écrit en lettres. Hein? Alors ce n'est pas du symbolisme genre 18e siècle français. Hein? C'est de l'hébreu du temps de la Bible, des temps bibliques. Bon, je referme la parenthèse. Rappelez-moi maintenant pourquoi je voulais parler de ça. La parenthèse de la parenthèse. Ma Oui, je ne vois pas le lien, mais enfin, vous le voyez seulement vers moi. Et donc, voilà le verset oui, je parlais du doute, hypothèse de doute d'Abraham. Alors, le Maharal a beaucoup étudié cette question. Je ne veux pas prendre trop de temps. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà étudié savent à quel point il faut vraiment étudier ces choses-là sur texte. Au niveau d'Abraham, ce n'était pas du tout un doute sur la capacité de Dieu de réaliser ce qu'il promet, entre guillemets. Mais c'était un doute sur la capacité de mérite de la descendance d'Abraham, pas d'Abraham lui-même. Abraham sait très bien que Dieu se révèle à lui. Et Abraham sait très bien que Dieu a des raisons de se révéler à lui. Il ne va pas se mettre à discuter comme un petit du Talmud Torah avec son moré. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est au niveau de la cohérence du récit, il faut prendre le récit. Qu'est-ce qu'a dit Abraham ? Bameeda irachena. C'est ce irachena qui explique la perplexité d'Abraham, la descendance. Bameeda, en quoi saurais-je ? Et la da'at, c'est la connaissance de certitude, da'at, que ma descendance sera sur ce pays, qui irachena. Est-ce que c'est clair ? Et je le formulerai de la même manière. Abraham a des raisons de se connaître. C'est à moi que Dieu parle. Mais est-ce que ma descendance méritera ? Voilà la perplexité. Il ne doute pas de Dieu. Il doute de lui à travers sa descendance. Est-ce que c'est clair ? C'est pourquoi le Maharal dit « vertu exagérée ». Je voudrais bien expliquer cette expression. « Mida mufreze ».« Mida mufreze », dit le Maharal. Ça, c'est une maladie des Juifs. Ça s'appelle le scrupule. Le scrupule, je cherche un adjectif, mais vous donnez une idée. Le scrupule inutile. Le scrupule exagéré. Vous voyez à quoi je fais allusion, en général. Nous sommes toujours pris par ce risque. La vertu exagérée, c'est pire que le contraire de la vertu. C'est pire qu'un défaut. Une charité totale et aveugle, ça détruit le monde. Parce qu'avec une charité totale et aveugle, tous les crimes sont permis. C'est le rôle de la charité absolue de pardonner tout. Donc si le monde se basait sur la charité totale et absolue et que ça, le monde serait détruit. Est-ce que c'est bien clair ? C'est corollairement vrai pour la justice stricte. La justice stricte, exagérée, c'est le légalisme. C'est mevalerola, dit la Gemara. C'est les juges qui jugent au nom de la justice stricte détruisent le monde. Pourquoi ? Parce qu'à la première faute, on est perdu. Avec la charité, toutes les fautes sont possibles. Mais avec la justice, à la première faute, on est perdu. Il faut les deux pour qu'il y ait la vérité morale. C'est clair, vous retrouvez donc l'unité des valeurs du monothéisme. Eh bien, encore une fois, l'explication du Maharal, c'est de dire que ce n'est pas du tout un doute de la part d'Abraham. C'est une vertu exagérée. Il a surévalué l'exigence de Dieu, alors que Dieu contracte alliance avec sa descendance et il se demande « Est-ce que ma descendance méritera ?» Mais c'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Vous voyez le danger de ce scrupule ? Encore une fois, ce n'est pas un doute de la part d'Abraham en Dieu, sur Dieu. C'est un doute de la part d'Abraham sur Israël. Et ça me rappelle ces formulations. Je vous raconte une anecdote de ma vie personnelle. Est-ce qu'on mérite suffisamment ? Ça, l'enseignement du Rav Kook est contre cela. À partir du moment où c'est Dieu qui a décidé, ne parlez pas de la clause du mérite. Et vous allez vous suicider. Parce que si on devait être jugé, pas besoin de nous. Et c'est dans toute autre motivation que cette alliance est basée. Il y a une Gemara extraordinaire qui dit « Tama srutavot » Le mérite des pères s'est achevé. Tama, ça veut dire qu'il n'y a plus. On pourrait expliquer à si longtemps que ça ne joue plus, le mérite des pères. Assez de se baser sur le mérite. Et la Gemara ajoute « Brit avot lotama » Mais l'alliance avec les pères, elle, n'est pas arrêtée. Vous voyez, je crois qu'il fallait prendre ces phrases-là pour remettre ça en évidence. On est trop sous la pression, sous l'influence de cette piété, de ce piétisme qui consiste à mettre en jeu la destinée d'Israël dans la clause du mérite. Où c'est écrit ça ? alors que c'est l'inverse. Et vous voyez le danger de cette mida vous faisait. Ça, c'est l'explication du Mahamad. En fait, Abraham ne doute pas, mais il demande un signe de confirmation. Et alors, avec beaucoup d'humour, la Gemara, il faut que je vous dise que ceux qui n'étudient pas le Talmud ne savent pas ce que c'est qu'être heureux d'étudier. Dès qu'on rentre dans le Talmud, c'est tellement un humour sain, S-A-I-M, que ça devient un humour sain, S-A-I-N-T. Mais c'est vrai. Et c'est ça l'Esprit Saint. C'est l'humour. Le Saint-Esprit, comme il dit. C'est hiératique. Quel. Mais Ruach HaKodesh, l'Esprit de sainteté, c'est l'humour. Vous savez, je ne vais pas oublier ce que dont je voudrais vous parler, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est un enseignement de la Gemara, lorsque deux sages se rencontrent, s'ils n'éclatent pas de rire, on doit les fusiller, les condamner à mort. Pourquoi ? Bon, aujourd'hui, on n'a plus la force, alors on les fusille du regard. Et pourquoi ? Parce que ça veut dire deux sages qui se tiennent au sérieux. Est-ce qu'un sage, c'est une fois regardé dans la glace ? Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Et se prendre au sérieux, c'est pas sérieux. Et qu'est-ce que c'est que l'humour ? C'est précisément ne pas se prendre au sérieux. Alors c'est ce qu'on appelle mêlé de dirkuta. Quand deux Tamil Hachamim se rencontrent, si c'est des vrais Tamil Hachamim, ils commencent par échanger mêlé de dirkuta. Ils échangent le fer pour savoir à qui il y a affaire. Mêlé de dirkuta, c'est-à-dire des blagues de Hachamim. Vous savez, les blagues de Hachamim, c'est pas rien. Et chaque fois qu'on étudie des choses très graves dans la Gemara, celui-moi un grand, celui de Guzma. Je ne sais pas si vous avez étudié les soulures, on s'arrête en disant Guzma. On va dire assez d'exagérer, vous êtes trop sérieux. D'avoir Magzi, Guzma, ça vient de la ramène. Alors je reviens à ce que je disais. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs ? Juste avant. Avant de parler de l'humour.
Tout à fait. Tout à fait, d'exagérer.
Oui, la vertu exagérée. Or, en Abraham, c'est pas une faute. En Abraham, c'était une vertu. Parce que Abraham, c'est l'homme de la Midat HaChesed et que ça. Seulement, l'erreur, c'est quand on se prend pour Abraham. C'est quand Israël se prend pour Abraham. Israël, c'est pas le juste de Chesed et que ça. C'est le juste de l'unité des valeurs. Alors, c'est le rôle d'Abraham d'avoir la vertu de Chesed exagérée. C'est son rôle, c'est en cela qu'il est authentique. Mais c'est pourquoi la promesse entre guillemets, elle le traverse et n'arrivera que jusqu'à Israël. Et elle s'arrête pas à Abraham. C'est pas à l'homme de Midat HaChesed que la Torah va être donnée. C'est à l'homme de Midat HaEmet, de l'unité des valeurs. Quel est le verset ? Torah, Tziva, Lanu, Moracha, Keilat, Yaakov. Pourquoi pas Abraham ? Pourquoi pas Isaac ? Pas encore. Il faut arriver à l'identité de Jacob, qui sera Israël, pour que la Torah soit révélée. Bon, c'est très bien. Et alors, donc, voilà le verset d'Abraham, Bameeda qui est Rachena, il demande un signe. Et encore une fois, tous les commentateurs le signalent, mais je vous ai cité l'explication du Maharal. C'est pas qu'il doute de Dieu. Mais il est là, dans ce qui pour nous est un piège, le piège de l'exigence de vertu. Vous comprenez pourquoi j'insiste tellement sur ça. Tu veux ouvrir un petit peu. Et alors Dieu lui répond, Yado Arteda, savoir tu seras. Tu as demandé Bameeda, en quoi serais-je ? Alors le verset répond, alors savoir tu seras. Yado Arteda, vous avez vu la correspondance des mots ? Kidir, Yézaracha, Beret Lolaim. Il y a déjà deux niveaux de l'exil. Être gay, étranger, ça veut dire déjà ailleurs que chez soi. Et deuxièmement, être étranger, Beret Lolaim, dans une terre qui n'est pas la leur. Alors faites bien attention au pshat. Le pshat ici, je vous cite le Zohar, le pshat ici, ça ne veut pas dire que je suis étranger dans une terre qui n'est pas la mienne. C'est ça être étranger. C'est être étranger dans une terre qui n'appartient pas à ses habitants. Beret Lolaim, les Égyptiens, Lolaim. Et vous vous rappelez de ce que la Torah a raconté, qu'au moment de la famine, le pharaon a dépossédé de la propriété de la terre, tous les Égyptiens, vous rappelez de ça, sauf les prêtres de l'Égypte. Et regardez à quel point deux perspectives de civilisation vont s'affronter. En Israël, c'est l'inverse. Les prêtres n'ont pas possession de propriété du sol, alors qu'en Égypte, c'est les prêtres seuls qui avaient possession de propriété du sol. Alors, vous entendez le pshat, guerre, yézaracha, beret, lolaem. et le Lulahem porte sur les Égyptiens. J'étais frappé de cela, dans l'analogie qu'on a eue dans le temps contemporain, avec ce qui s'est passé pour les Juifs en Russie, en Empire soviétique. Le Shalach et Ami Ve'avduni, rappelez le Shalach et Ami Ve'avduni de Moïse au Pharaon, c'est par rapport à ce qui se passait en Russie, où les Juifs ne pouvaient pas sortir, comme les Hébreux ne pouvaient pas sortir d'Égypte, que cette expression était employée. Mais l'agent juif l'a employée à sa manière. Moïse avait dit Shalach et Ami Ve'avduni, renvoie mon peuple et qu'il me serve. À l'agent juif, on a dit Shalach et Ami pour qu'il s'inscrive à la Avoda. En tout cas, c'était les élections aujourd'hui. Et pour revenir en tout cas au sujet, j'étais frappé de cela. Or, la Russie, l'Empire soviétique, était précisément un régime où la terre n'appartenait pas à ses habitants, exactement comme en Égypte. Est-ce que vous voyez l'analogie? Ça va jusque-là. Donc,
et Yosef a beaucoup aidé, c'est ça qui
c'est ce que j'allais dire.
C'est ça qui m'a étonné, justement, qu'un juif, un hébreu, fasse des choses pareilles.
Il semble que ce n'était pas Joseph Staline, mais il est évident que Joseph, effectivement, a participé à l'installation du régime égyptien en Égypte. Il n'y a pas de doute. Le rôle de l'identité Israël dans dans le fonctionnement économique des empires du temps, ça c'est un autre problème, il est permanent. Chaque fois, vous voyez un juif, autant des juifs, un hébreu, autant des hébreux, au poste de gestion de l'économie de la civilisation en question. C'est clair. Hein? Ça, c'est le rôle de Joseph. Et en fait, Joseph, d'après tout ce que nous apprenons des commentaires sur la formulation du récit de l'œuvre de Joseph en Égypte, voulait hébraïser l'Égypte. Mais l'identité égyptienne était plus forte que l'intention de Joseph. Alors c'est Beremes. Je vous inviterai toujours à relire l'histoire de Joseph d'après la Torah à travers les commentaires du Midrash, commencé par Rashi. Et oui, il nous indique très clairement que l'intention de Joseph était d'hébraïser l'Égypte. Shem Shamaim Hayashagur Befi. Et que ça va jusque-là dans le Midrash, qu'il avait pris des décrets d'imposer la circoncision, de commencer à imposer le repos hebdomadaire. On ne parlait pas de Brit Mila, on ne parlait pas de Shabbat, mais on parlait à la manière des socialistes juifs, le repos hebdomadaire, les lois d'hygiène minimum, etc. etc. Oui, je dis rapidement ces analogies. Okay. Mais je me rappelle, moi, quand j'ai commencé mes études, c'était le temps de Léon Blum, et je me rappelle les congés payés que Léon Blum a imposés à la France. Oui, ça c'est Joseph. Joseph là s'appelait Léon, en fait. Et beaucoup de mécanismes de cet ordre. Voilà, je répondrai de cette manière. C'est beaucoup schématique, mais on n'a pas le temps. Joseph voulait hébraïser l'Égypte, mais l'Égypte a aussi à égyptianiser Joseph. Et je referme la parenthèse, hein, au point que lorsque, je citerai un des Midrashim, que lorsque Jacob va rencontrer Joseph à la fin de cette histoire, le Midrash me fait comprendre, Jacob n'a pas reconnu Joseph. Il dit Reot Panecha Lopilalti. Parce que Joseph avait une barbe égyptienne. Alors Jacob ne l'a pas reconnu. Mais qu'est-ce que c'est cet égyptien? Et il y a d'autres Midrashim dans ce sens-là. Finalement, il faut que spectaculairement, Joseph se dévoile pour dire malgré les apparences, je suis Joseph, votre frère. Mais ce qui s'est passé, je crois que c'est Pionce qui avait dit ça. Je referme. Hein, c'est Pion.
Jean 23.
Non, avant, bien. Jean 23 a dit nous sommes tous spirituellement des sémites.
Non, c'est l'inverse.
Ah, c'est l'inverse. Bon, très bien. Je cite. Donc, c'est Jean 23 qui a dit
je suis Joseph Mazoué, c'est lui.
Nahon,
c'est
lui. À une délégation du Congrès juif américain sur le parvis du Paris. Non, vous avez raison, c'est Pion. Donc, alors, on revient au sujet. Attends, je finis la phrase, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Oui, j'ai fini la réponse.
Quelle est la question? Pour tous les Erev Jolahem, c'est aussi Erev Israël, parce que la Rav Hashana commence depuis Yitzhak.
D'accord, alors ça, c'est au niveau du Drach. Absolument.
Donc ça correspond à votre explication, c'est Erev Jolahem, c'était.
D'accord. Et ça, c'est un chat non Drach. Non, c'est vrai, j'achète. C'est vendu. Mais c'est en général relié à Sherosetifa, mais. Eret Mitzrayim, Ben Avadim. Et Ben Avadim, ça veut dire la maison des esclaves.
Mais le sens c'est que les esclaves, c'était les Égyptiens. Les Égyptiens étaient déjà les esclaves du Pharaon, et nous étions Avadim la Avadim, esclaves d'esclaves. Je comprends un peu l'analogie, il faudrait creuser cela, l'analogie avec le régime soviétique. Il y avait une structure très analogue et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Empire d'Assuérus. Il y avait le potentat, là c'est le pharaon, et puis il y avait le parti du potentat, et puis il y avait le peuple. De la même manière, dans l'Empire soviétique, comme dans l'Empire d'Assuérus, vous aviez le pouvoir royal, impérial plus exactement, le parti des Amalécites, et puis les peuples. Et dans l'Empire soviétique, vous aviez le dictateur, le parti communiste et les minorités nationales. Et par conséquent, les soviétiques eux-mêmes étaient esclaves d'esclaves. Et un peu dans ce sens-là. Mais je continue. Il y a Douar Tédar qui est Zanacha Meretolaïm, deux degrés déjà. Vous retrouvez les quatre degrés qui sont cinq de la délivrance, qui correspondent aux quatre coupes qui sont cinq. Quatre coupes du Seigneur de Messa qui sont cinq. Ça vous le verrez dans la bracha de l'Aéra la semaine prochaine. Les niveaux de la délivrance correspondent au niveau de la servitude. Et, Fira, c'est la semaine dernière. Alors oui, qu'est-ce que j'ai dit la semaine prochaine? Vous saurez pourquoi à la fin du cours. Béchalach. Et pour revenir au sujet, il y a d'abord Tédar qui a dit la Chavazlaïr, Bahavadou, la Abdou, Veinu Otam, Veinu, vous voyez les différents, Guerre, Eretzolaïr, Avadou, Veinu Otam, Alba Meotam. וגם את הגוי אשר יעבדו, גם אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול.